chers auditeurs, le 14 juin dernier, Abraham Bouli Yehoshua nous a quittés. Écrivain et essayiste, il est l'auteur de plusieurs dizaines de livres, la plupart traduits en français et dans 27 autres langues. Avec ses deux amis, Amos Oz, lui-même décédé en 2019, et David Grossman, on le considère comme l'un des trois géants de la littérature israélienne. Lauréat du prestigieux prix d'Israël en 1995, il avait reçu en 2012 le prix Médicis français du livre étranger pour rétrospective paru chez Grasset. À travers ses romans, Aleph Beit Yehoshua a su mieux que tous les innombrables essais et écrits sur Israël nous parler du peuple de ce pays, de ses angoisses et de son histoire. Il l'a fait avec lucidité, humour et empathie. Issu par son père d'une famille d'origine séfarade installée à Jérusalem depuis 4 générations et par sa mère d'une famille d'origine marocaine venue s'installer dans le pays en 1932, Aleph Beit Yehoshua s'est toujours affirmé comme sioniste, enraciné dans son pays et dans sa langue. Mais cette identité s'est toujours accompagnée d'un engagement dans l'égalité des droits à destination de tous les habitants vivant entre le Jourdain et la Méditerranée. Son combat pour la justice n'avait d'égal que celui qu'il menait pour la paix. Compagnon dès sa création de Shalom Arshav, la paix maintenant, Aleph Beit Yehoshua avait été l'un des signataires de l'accord de Genève de 2003 qui, négocié par des représentants israéliens et palestiniens, définissait les paramètres politiques qui auraient dû mettre fin au conflit. Membre successivement du parti travailliste puis du Meretz, il s'est engagé dans la plupart des combats de la gauche israélienne. Nous allons maintenant demander à son traducteur français, Jean-Luc Alouche, de nous parler de Aleph Beit Yehoshua. Jean-Luc Alouche a été journaliste puis rédacteur en chef à Libération pendant 15 ans, dont 5 années passées en Israël en tant que correspondant du journal. Il a traduit plusieurs grands auteurs israéliens. Jean-Luc Alouche, vous êtes là, vous m'entendez ?
Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur notre antenne, l'antenne de Radio Shalom. Jean-Luc Alouche, d'abord, dites-nous quel livre d'Aleph Beit Yehoshua vous avez traduit ?
Alors, successivement dans l'ordre, rétrospective que vous avez évoquée, c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai traduit Nitzevet, la figurante.
Oui.
Puis Aminhara, le tunnel. Et enfin, le dernier paru, Abdehida, la fille unique.
Absolument. C'est celui que, le dernier que je l'ai lu qui est très beau, qui est étonnant. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion, Jean-Luc Alouche, de parler avec Aleph Beit Yehoshua ? Quelle impression, si vous avez eu l'occasion de le rencontrer, vous a-t-il fait ?
D'abord, je dois vous dire que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, que ce soit à Tel Aviv ou à Paris. Nous nous sommes vus beaucoup, nous avions une correspondance et même des appels téléphoniques nombreux. Et je dois dire que je suis tombé sous le charme d'Aleph Beit Yehoshua immédiatement.
C'était chaleureux.
C'est au-delà de la chaleur, c'est l'humanité foncière de cet homme, son humour extraordinaire, son ironie et sa fougue, son ardeur jusqu'à ses dernières heures pratiquement, sa faculté de s'engager, d'avoir une nouvelle idée puis de la démolir aussitôt et son immense intérêt pour les autres.
D'accord. Ouais.
Pour moi, en tant qu'être humain, d'abord son traducteur et en tant qu'être humain, et nous avions quand même beaucoup d'affinités entre nous. Et je dois dire, voilà, et puis son amitié.
D'accord, donc il y a un contact très chaleureux. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Luc Alouche, quand on dit d'une manière un peu formelle que Aleph Beit Yehoshua, Amos Oz et David Grossman, c'est la trilogie gagnante, que c'est les trois plus grands auteurs israéliens? Est-ce que vous les mettez ensemble ou un peu pas vraiment?
Moi, j'ajouterais...
Sachant que vous avez traduit Amos Oz.
Oui, et Grossman. Grossman.
Il y a Grossman aussi, alors voilà.
Alors, je les qualifie affectueusement et avec un brin d'ironie, la sainte trinité de la littérature hébraïque.
D'accord, la chose est dite, quoi.
Alors j'ajouterai comme Saint-Pierre, sans doute Yoshua Knaz.
Yoshua Knaz, qui est moins voilà, connu quand même, qui est moins connu.
Mais qui est, d'un point de vue littéraire, un géant, tout comme eux.
Est-ce que vous êtes d'accord également avec le grand quotidien israélien Haaretz, qui a écrit, ça je l'ai vu sur la quatrième de couverture, que Aleph Beth Yeshua est le meilleur conteur d'Israël? Est-ce que vous le définiriez ainsi en tant qu'écrivain, le meilleur conteur?
Ah oui, tout à fait. Alors, tout à fait. On a employé un peu le cliché littéraire du Balzac israélien, voire du Faulkner israélien, mais il y a du vrai dans cette image. D'abord, c'est un auteur qui a une imagination débordante, voire parfois délirante. C'est un conteur, il sait raconter des histoires. Contrairement, je dirais, à ces deux homologues, Oz et Grossman, encore que Grossman s'engage de plus en plus dans une voie où la fiction tient une part importante au-delà de ses expériences, etc., de son autobiographie qu'il peut poursuivre d'un livre à l'autre. Yehoshua, lui, embrasse un faisceau imaginaire extrêmement important. Deuxièmement, c'est l'un des rares, sinon le seul, à sortir des limites de l'enclave et du conclave israélien pour aller voir ailleurs. C'est un réel universaliste. Ces histoires se déroulent dans le monde entier, en Inde, en Moldavie,
en Italie.
En Italie et j'en passe. Ce qui n'est pas le cas de la plupart, sinon l'immense majorité des autres écrivains. Et sa faculté de d'animer des personnages de chair et de sang, et parfois même à la limite, je dirais, de l'écriture poétique. Mais en cela, il me rappelle un grand ancêtre de la littérature israélienne. Je veux parler de Shmuel Yosef Aglon.
Ah bah bien sûr, je voulais faire le rapport. Jean-Luc Alouche, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Aleph Beth Yehoshua était vraiment un sioniste enraciné dans son pays et dans sa langue, comme je viens de le dire là?
Mais jusqu'à la caricature, il avait cette énergie, je dirais, de taurillon qui nous rappelle celle des premiers pionniers et celle des premiers théoriciens du sionisme. Et évidemment, dans la mouvance, je dirais, du Mapai ou du Mapam, de la gauche sioniste, il a gardé cette pureté parfois un peu naïve et plus tard, je dirais, désespérée, de la justification absolue du sionisme. Le sionisme était son histoire d'amour avec le judaïsme. C'est si vrai d'ailleurs que, à l'instar de l'accusation assez rude qu'il a portée contre le judaïsme américain, nous, lui et moi, dans nos conversations, il m'accusait d'être un juif à moitié, un juif partiel, parce que j'étais pas venu m'enraciner totalement en Israël.
En Israël, oui.
Alors... Mais il faut quand même amender. Il avait encore une fois trop d'humour et trop d'auto-ironie pour se contenait à cet aspect-là. Je veux dire, c'était un idéologue, ce n'était pas un dogmatique.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on discutait avec lui pour lui faire valoir que, ma foi, parfois, l'existence en diaspora n'est pas aussi vouée à la catastrophe absolue, il pouvait l'entendre.
D'accord. Alors, d'ailleurs, son dernier livre passe en Italie. Hein.
Bah, il était amoureux fou de l'Italie, par ailleurs.
On le sent, d'ailleurs, on le sent.
Comme il adorait la France.
Je vous pose une question, là, où on parlait un peu d'idéologie. Alors, on sait qu'Aleph Beth Yehoshua, c'était un homme très engagé dans le camp de la paix en Israël. et qu'il a été pendant des années un porte-parole de la coexistence entre Arabes et Juifs, entre Israéliens et Palestiniens. Pourtant, à la fin de sa vie, il a eu des doutes sur la fameuse solution des deux peuples pour deux États qui a structuré la gauche israélienne pendant longtemps. Puisque vous avez eu une relation suivie avec lui, comment vous expliquez ce retournement? Est-ce que c'était vraiment profond chez lui, ce doute sur la solution de peuple pour deux États? Et comment il voyait les choses dans l'avenir? Est-ce que pour lui, c'était la messe était dite, entre guillemets?
Dans les mois qui ont précédé son retournement de situation, si j'ose dire, et où, passant de deux États pour deux peuples, il s'est mis à prôner la solution de l'État binational, nous avions eu beaucoup de discussions à cet égard. Et je dois dire qu'il était assez désespéré par l'état dans lequel était réduit Israël. En particulier l'émergence de la droite nationale religieuse, de l'emprise de plus en plus forte des colons sur la scène du pays, sur le caractère quasi inéluctable et indémêlable de la colonisation dans les territoires palestiniens, et je suis le premier témoin, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il disait les colons sont les pires des juifs parce qu'ils vont s'imposer au cœur des autres nations. Et donc, toute cette situation le désespérait un peu. Et il me disait, il me rapportait à chaque fois des exactions, des méfaits, etc. J'en déduis qu'il a proposé cette solution comme une sorte de provocation, comme s'il se faisait l'avocat du diable, et en même temps, en quoi il était fidèle au fait qu'il détestait la tiédeur, les opinions modérées, etc., et qu'il voulait foncer. Je crois qu'il a jeté tout simplement un pavé dans la mare.
Un pavé dans la mare. Mais est-ce que vous avez ressenti qu'il était pour un État binational? Vous voyez, est-ce qu'il envisageait, ou est-ce que c'était plutôt un trait d'humour, ou un, comme vous dites, un pavé dans la mare, une provocation pour réveiller les gens?
Voilà, c'est ce que j'appelle. Je pense qu'il me rappelle. Vous savez, voyez nos prophètes de la colère qui invectivent le peuple.
Ah ouais, tout à fait.
Qui l'attrape au collet pour lui dire, mais bon sang, réveillez-vous et regardez ce qui se passe sous vos yeux. Je pense que c'est de l'ordre de cet ordre-là. Je pense pas qu'il le prenait, parce que après tout, 3 ou 4 ans avant, il avait écrit des choses très dures contre l'idée même d'un État binational.
D'accord.
Et donc, voilà. Et donc, je pense que c'est une provocation, peut-être un peu désespérée. Bon, à quoi il faut ajouter que, je dirais, son aide absolue, son épouse Ika, avait disparu et qu'il en souffrait terriblement, et que Ika était celle qui le ramenait à de plus justes mesures et non pas à ses chimères autant idéologiques que généreuses.
Mais une question, une avant-dernière question, Jean-Luc Alouche, il nous reste plus de temps. Pour les gens qui croient encore à la coexistence pacifique et à la résolution de peuples, deux États, qu'est-ce qu'on doit se souvenir de Aleph Beit Yeshua? Est-ce qu'on doit se souvenir de celui qui était à Genève ou de celui qui désespérait lançait le passé dans la mare en disant État confédéral? Comment on doit le prendre?
On doit le prendre comme un tout, comme la Révolution française, comme disait... Ah.
D'accord. Faut tout prendre.
Abraham Yeshua n'est intéressant que parce qu'il est parfaitement humain. Et non pas, je dirais, un répertoire d'idées ou de combats.
C'est un écrivain avant tout.
Il faut garder la mémoire de Bouly, comme on l'appelle, comme vraiment l'un des plus intéressants, l'un des plus fougueux et l'un des plus amoureux d'Israël.
D'accord. Alors, une dernière question pour terminer, Jean-Luc Alouche. Quel livre vous diriez qu'il faut lire à des lecteurs qui ne connaissent pas l'Aleph Beit Yeshua? En priorité, je ne connais pas l'Aleph Beit Yeshua, que je dois lire?
Alors, je vous en donne les deux. Un des débuts, Monsieur Mani,
oui,
qui pose bien d'ailleurs les différentes problématiques entre Ashkenaz et Sépharade et entre Juifs et Arabes. Et un autre moins connu qui a été traduit en français, qui en hébreu s'appelle Akala Ameshaharat, et qu'on l'a traduit pas, avec un petit faux sens, la fiancée libérée alors que c'est la fiancée qui libère. Et dans ce très beau roman, on voit se nouer les relations entre juifs et arabes, mais au sens le plus profond qu'il soit, au-delà de la politique, même si la politique est évidemment présente.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Luc Alouche, d'avoir parlé si bien de Aleph Beit Yehoshua.
J'ajoute que je ne les ai pas traduits.
Ah, d'accord. Mais vous les avez lus.
Oui, bien sûr.
Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup. Et alors, je souhaite une bonne semaine à tous et à toutes, et à dans 15 jours sur Radio Shalom. C'était Paul Ouzimi-Herson à l'antenne avec Chronique pour la paix, et à bientôt.